Chapitre 10, le prisonnier, la maison de Remy Darx, la visite des habits noirs. Il y avait déjà plus de 2 semaines que Maurice Pagès avait quitté la conciergerie pour être transféré à la force. On l'avait laissé au secret pendant les 3 premiers jours seulement, et puis l'instruction ayant atteint, grâce à la haute opinion que M. Perrin Champin avait de lui-même, sa complète maturité, l'ordre était venu de rendre Maurice à la vie commune des prisons. Maurice excitait parmi ses compagnons de peine une très grande curiosité, d'autant plus qu'il était séparé d'eux, habitant toujours le quartier des hommes au secret et soumis à la plupart des précautions spéciales qu'on prend vis-à-vis de ces derniers pour éviter toute tentative d'évasion. Parmi les captifs de la force, l'opinion la plus accréditée était que l'ex-lieutenant avait buté contre un carc, c'est-à-dire que, tombé de manière ou d'autre dans un piège habilement tendu, il payait la loi pour quelque malfaiteur de la haute. La police suivrait moins souvent une fausse piste, la justice commettrait moins d'erreurs, si elle pouvait, à leur aise, prendre langue au fond des sombres promenoirs où les reclus viennent boire chaque jour quelques gorgées d'air libre. Il se tient là une bourse d'informations qui trouve parfois le mot des plus difficiles énigmes et résout en se jouant des problèmes inextricables. Ainsi, Canlet, Peuchet et la plupart de ceux qui ont écrit sur la police secrète autre chose que d'idiotes déclamations appuient-ils sur le rôle du mouton ou du prisonnier acheté dans les bureaux. Les rapports du mouton seraient à leur sens la meilleure certitude si ce misérable, damné 2 fois par son crime d'abord et ensuite par sa trahison, pouvait inspirer une ombre de confiance. À la force, on aurait lu avec passion le travail du malheureux Remy Darx, repoussé à l'unanimité par les dédains de l'administration et de la magistrature. Peut-être se trouvait-il à la force quelqu'un qui aurait pu écrire un nom sur chaque masque d'habit noir désigné dans ce travail. La force étant plongée bien plus bas encore que la foire dans les profondeurs de la vie parisienne, on y savait mieux la mythologie du brigandage, on y connaissait de plus près les demi-dieux du meurtre et du vol. Le nom des habits noirs avait été prononcé plus d'une fois à la force à propos du lieutenant Maurice Pagès. Mais l'innocence probable de ce dernier, loin de faire naître la sympathie, le plaçait en dehors de la ligne du mal. On guettait l'heure de son procès avec une malveillance impatiente. C'est fête pour les bandits quand une erreur judiciaire se prépare. Chaque faux pas de la justice est un témoignage à leur décharge. La cellule de Maurice était située au 3e étage de l'ancien hôtel de Brienne et faisait partie des aménagements pratiqués à la fin du règne de Louis XVI pour transformer la noble demeure en prison. Le plan extérieur de la chambre qu'il occupait aurait présenté une surface convenable, mais l'épaisseur des murs en pierre de taille la rendait tout à fait exiguë. Elle prenait jour au moyen d'une fenêtre étroite, profonde, et défendue par un double système de barreaux en fer forgé, sur une cour intérieure ayant fait partie autrefois des jardins de Caumont, et d'où restaient quelques grands arbres, tristes comme des prisonniers. On apercevait leurs cimes de la rue Culture-Sainte-Catherine, et ceux qui ne savaient point dans quelle terre maudite ces vieux troncs étaient plantés, songeaient peut-être avec envie à ces heureux voisins, jouissant de feuillées si vertes et de si frais gazons. Juste en face de la fenêtre, qui ressemblait à une meurtrière élargie, s'élevait le grand mur, bâti récemment pour prévenir le retour des évasions dont nous avons parlé. Mais il faut ajouter bien vite que ces évasions n'avaient pas eu lieu à l'étage habité par Maurice et qui contenait 12 de cellules à l'épreuve destinées aux criminels de la plus dangereuse catégorie. Le porte-clé pouvait donc faire les 100 pas dans le corridor en toute sécurité. Quand même Maurice aurait eu des ailes au lieu de ses pauvres mains chargées de menottes, il n'y aurait eu pour lui nul espoir de passer à travers les barreaux de sa terrible cage. Il était assis auprès de sa couchette sur une chaise de paille, seul meuble qui fût dans la cellule, et ses mains liées reposaient sur ses genoux. Il portait le costume des prisonniers, dont l'aspect suffit à serrer le cœur. Le jour, qui arrivait plus blanc après avoir frappé les toits couverts de neige, éclairait à revers sa tête rasée et la pâleur mate de son front. Nous le vîmes une fois, joyeux jeune homme, soldat rieur, mais tout ému par les espérances qui lui emplissaient l'âme. Nous le vîmes une fois, attendri et gai en même temps, faire l'honneur avec le vaillant appétit de son âge au pauvre mais cordial souper que maman Léo lui offrait avec une si enthousiaste allégresse. Ce soir-là, il apprit que Fleurette l'aimait toujours. Il entendit prononcer pour la première fois le nom de Remy Darx. Il pressentit la première atteinte de la fatalité qui pesait déjà sur lui. C'était à cette soirée que sans cesse il pensait, dans la solitude de sa prison. Sa vie entière était résumée pour lui par ces quelques heures qui lui semblaient radieuses et terribles. Tout de suite après, la mort d'un inconnu commençait le drame en quelque sorte surnaturel qu'il avait enveloppé comme un suaire de plomb et contre lequel il n'y avait pas de résistance possible. Son souvenir allait obstinément vers cette cabine de saltimbanque, encombrée d'objets misérables et ridicules, où il mettait, lui, tant de pure, tant d'adorable poésie. Tout le roman, bizarre mais heureux, de sa jeunesse était là. Est-ce qu'il n'y avait pas le sourire enchanté de Fleurette pour jeter à pleine main le prestige sur le côté bas et comique de la baraque? Maurice revoyait, dans un éblouissement, l'humble théâtre de ses joies. C'était là encore, c'était là qu'après la longue absence, il avait retrouvé l'espoir et le bonheur. En ce monde, Maurice n'avait pour l'aimer bien que deux cœurs, Valentine et Léocadie. Certes, mademoiselle de Villanove et la dompteuse étaient placées dans des situations fort différentes, mais au temps où Maurice les avait connues, maman Léo était la protectrice et la patronne de celle qu'on nommait maintenant mademoiselle de Villanove. Elles étaient en outre réunies par leur tendresse commune pour lui. En dehors d'elles, Maurice n'avait ni attache ni espoir. Non pas qu'il fût indifférent ou ingrat envers sa propre famille, composée de bonnes gens qu'il avait bien traités dans son enfance, mais sa famille, représentée surtout par le brave père Pagès, l'avait retranché une première fois, déjà 2 ans auparavant, comme une branche gourmande. Maurice, en son cœur, ne blâmait point cela. Il savait bien qu'un homme de médiocre aisance et chargé d'enfants, comme l'était son père, ne doit jamais jouer avec la sécurité de sa maison. Pendant sa brillante campagne d'Afrique, on lui avait presque pardonné, mais depuis son malheur, il n'avait reçu qu'une dépêche brève et froide. Ce n'était pas, à la vérité, une malédiction, mais la dépêche se terminait par cette phrase, résumée des sagesses provinciales, « Ceux qui méprisent les conseils et l'expérience et secouent l'autorité paternelle finissent toujours malheureusement. » À Dieu ne plaise qu'il y ait en nous amertume ou sarcasme au sujet de cette phrase qui est en somme l'expression bourgeoise d'une vérité fondamentale. Mais le vieux La Fontaine nous montre en riant ce que vaut la sagesse venant hors de propos et mieux vaudrait peut-être la folie. Je préfère ceux qui, loin d'accepter ainsi l'accomplissement de leurs banales prédictions, se redressent, incrédules devant la honte, ceux qui s'écrient, en dépit de toute apparence et même de tout bon sens, « Non, mon fils n'est pas coupable. C'est la famille, cela, c'est la vraie famille. La famille n'existe qu'à la condition de garder cette foi robuste et ses splendides aveuglements. » Maurice, depuis sa seconde arrestation, n'avait pas passé un seul jour sans attendre la visite de maman Léo. Celle-là ne regorgeait point de sagesse, mais Maurice savait quel dévouement sans borne était au fond de ce brave cœur. À mesure que le temps passait, son étonnement de ne la point voir grandissait, et pourtant il ne songeait point à l'accuser d'oubli. Il n'attendait plus d'autre visite que la sienne, parce que l'employé qui avait ouvert une fois la porte de sa prison à Valentine avait été congédié. Quand il vit entrer la dompteuse, et d'abord il ne vit qu'elle, sa première parole fut celle-ci. « Ah, pauvre maman, je parie que vous avez été malade !» La veuve vint à lui impétueusement et les bras ouverts. Il ne put répondre à ce geste à cause des liens qui retenaient ses poignets. La veuve le serra contre son cœur en pleurant et en balbutiant. « Maurice, mon chéri de Maurice, comme te voilà changé, comme tu as dû souffrir !» Elle avait oublié Valentine, que sa large carrure cachait aux yeux du prisonnier. « Je ne souffrirai pas bien longtemps désormais, » reprit celui-ci. « Embrassez-moi encore, maman Léo, et puis nous parlerons d'elle, n'est-ce pas? J'ai grand besoin de parler d'elle. » Mais elle est là, dit la bonne femme à voix basse, elle est avec moi. Maurice la repoussa d'un mouvement si brusque qu'elle faillit tomber à la renverse malgré sa vigueur. Un sacré Dieu, dit-elle toute contente, tu as encore de la force, mon cadet. Maurice s'était levé à demi. Ses yeux se fixaient sur Valentine qui était debout et immobile au milieu de la chambre. Son premier regard hésita à la reconnaître sous le déguisement qu'elle avait pris. Et quand il la reconnut, deux larmes roulèrent le long de ses joues et il retomba sur son siège, répétant presque les paroles mêmes de la dompteuse. « Vous avez coupé vos cheveux, vos beaux cheveux que j'aimais tant !» Le porte-clés passait en ce moment devant le seuil. « Bonjour, cousin, dit Valentine à voix haute. Est-ce vrai qu'on ne vous laisse pas fumer votre cigare? Voilà ce qui doit être dur. » Elle s'approcha et baisa Maurice au front. « Cher, cher Valentine, murmura celui-ci, j'aurais été trop heureux. Est-ce que c'était possible d'avoir sur la terre un bonheur pareil ?» Le porte-clés, en repassant, jeta un regard à l'intérieur de la cellule. Il vit maman Léo assise sur le pied du grabat, les jambes ballantes, le prisonnier toujours à la même place et le jeune garçon debout auprès de lui. « Nous n'avons pas de temps à perdre, dit la dompteuse, et ce n'est pas pour nous amuser que nous sommes ici. » « Laisse-moi parler, maman, interrompit Valentine. Je veux tout expliquer moi-même à Maurice. Alors, viens t'asseoir auprès de moi, fillette, car tes jambes flageolent. » Valentine avait en effet chancelé. « Non, fit-elle, je veux rester là, je veux m'asseoir sur les genoux de mon mari. » Elle écarta elle-même les mains de Maurice, qui la regardait en extase et s'assit, plus légère qu'une enfant, à la place qu'elle avait indiquée. Malgré tout, pensait la dompteuse, elle a un petit coup de maillotche, c'est bien sûr. Nous n'avons pas de temps à perdre, répéta mademoiselle de Villanovay avec une singulière tranquillité. Il faut que tout soit expliqué, que tout soit convenu en quelques minutes, car les choses vont marcher très vite, et nous ne nous reverrons peut-être plus avant le grand jour. Quel grand jour? Demanda Maurice, qui avait échangé un regard avec la dompteuse. Valentine sourit doucement. « Cela nous retarderait, dit-elle, si vous vous mettiez en tête que je suis folle. Parmi les choses que je vais vous dire, il y en aura qui vous sembleront bizarres. Mais j'ai toute ma raison, je vous l'affirme, et je suivrai ma route avec courage parce que je l'ai choisie avec réflexion. » Elle se tenait droite et il y avait de l'orgueil dans le geste qui appuyait sa main charmante sur l'épaule de son fiancé. « Vous êtes mon mari, Maurice, reprit-elle, et je suis votre femme par le fait de notre mutuelle volonté. Que nous devions vivre ou mourir, mon vœu est que cette union soit bénie par un prêtre, afin qu'il n'y ait qu'un seul nom sur la tombe où nous dormirons tous deux. »« Mais ce n'est pas tout cela, voulut interrompre la dompteuse. Laissez, ordonna Valentine. » Et Maurice, qui baignait ses yeux dans le regard de la jeune fille, répéta « Laissez, oh, si fait, c'est bien cela !» Valentine pencha ses lèvres jusque sur le front du prisonnier pour murmurer « Nous ne pouvons avoir à nous deux qu'une volonté. Je ne vous redemande pas le poison que je vous ai donné, Maurice, mais j'ai changé d'avis et je ne veux plus m'en servir. » La prunelle du jeune homme exprima une inquiétude. Mademoiselle de Villanovay sourit encore et ajouta « J'ai votre promesse, vous ne vous en servirez pas tout seul. » Cependant, commença Maurice, on entendait à peine les pas du porte-clés qui se promenait à l'autre bout du corridor. Le doigt de Valentine se posa sur la bouche de son fiancé, mais ce ne fut pas elle qui parla, car maman Léo était en colère. « Sacré Dieu ! S'écria-t-elle, il s'agit de préparer une évasion. Je croyais que la petite avait au moins quelques limes et un ciseau à froid pour travailler ces doubles barreaux qui ne paraissent pas faciles à remuer. » « Est-ce que vous croyez qu'on s'en va de la force en disant au gouvernement « Pardon, excuse, j'ai besoin d'aller à la chapelle pour mon petit conjugo. J'ai déjà vendu mes rentes, moi, et j'ai un bon garçon, incapable d'inventer la vapeur, mais solide au poste comme le chien de Montargis, qui court la ville pour nous embaucher des hommes. Après quoi, il tentera de se ménager des intelligences ici, dans l'intérieur de l'établissement. Mais vous ne m'écoutez même pas, dites donc. » Maurice et Valentine se regardaient. « Il se peut que nous ayons besoin de vos hommes, bonne Léo, dit la jeune fille. Il se peut que nous ayons besoin aussi de votre argent, et pourtant je crois être très riche. Dans une heure, désormais, nous serons fixés à cet égard. Ne m'interrompez plus et laissez-moi expliquer à Maurice ce qu'il a besoin de comprendre, car dans notre situation, il est des choses que je ne saurais éclairer complètement et qui doivent être laissées à la grâce de Dieu, comme le sort des malheureux menacés par un naufrage. Elle se recueillit un instant. Quand elle parla de nouveau, ses beaux yeux brillaient d'une sérénité angélique. « Aux yeux de la sagesse humaine, dit-elle, nous sommes si bien perdus que par deux fois nous avons cherché notre refuge dans la mort. Au-delà de la mort, dans l'éternité à laquelle je crois plus fermement depuis que je souffre, le châtiment de ceux qui s'aimaient ardemment sur la terre et qui l'ont quitté par un crime doit être la séparation. Oh, ne m'objectez rien, le doute ne m'arrêterait pas. Il suffit que la justice de Dieu puisse exister pour que ma résolution soit inébranlable. » Je ne veux pas être séparé de Maurice. Je veux que notre serment juré ici-bas s'accomplisse dans le ciel, et pour cela, je ne demande pas à mon fiancé de subir le supplice d'infamie, je ne lui demande pas d'attendre l'échafaud, mais je lui dis, « Ami, nous étions déterminés à mourir. Je vous apporte une espérance qui est peut-être chimérique, mais je vous supplie, pour l'amour de moi, de ne point faire subir à cette espérance l'examen de la raison. » Elle est ce qu'elle est, extravagante ou sensée, que vous importe en définitive, puisqu'encore hier notre dernière ressource était le partage d'une liqueur mortelle. Ça, ça, murmura la veuve, qui s'agitait sur le pied du lit. Je ne rêve pas, car je viens de me pincer jusqu'au sang. Est-ce qu'on parle allemand ou grec? Je veux être pendu si je comprends un mot de ce que vous nous chantez là, ma bergère. « Et toi ?» fit Valentine en se penchant à l'oreille du prisonnier. « Moi, je veux tout ce que tu veux, » répondit Maurice, « mais je ne comprends pas non plus. » Valentine continua, cherchant ses paroles avec une sorte de timidité. « Ne me forcez pas à penser que mon effort ne tend qu'à me tromper moi-même. Je n'ai pas beaucoup d'espoir, c'est vrai, car je suis obligé de m'appuyer sur quelque chose de terrible. » Mais dussions-nous succomber, Maurice, ne vaudrait-il pas mieux mourir en combattant, et ne préférerais-tu pas, toi si brave, le martyr au suicide ? Si fait, répondit vivement le prisonnier, dont les yeux brillèrent. Maman Léo, en même temps, frappa ses deux mains l'une contre l'autre, et s'écria « Ah, c'est l'affaire du coyatier, alors ! Ah, voilà que je comprends à demi !» Bien sacrédié, je n'aime pas plus le martyr que le poison, et à moins qu'on ne me lie les pieds et les pattes, je ne vous laisserai pas vous jeter dans la gueule du loup, c'est moi qui vous le dis. » Le gardien s'arrêta devant la porte, au dehors, et dit fort poliment, « Les 20 minutes sont mangées, il faudrait penser à s'en aller. » « Déjà, firent à la fois Valentine et Maurice. « Votre montre avance, l'homme, » répondit la dompteuse, qui avait repris son air déterminé. Encore une petite seconde, s'il vous plaît. On est en train de prêcher le jeune homme pour qu'il se fasse une raison dans son infortune. » Le porte-clés ayant accordé 2 minutes de grâce, la dompteuse reprit tout bas en s'adressant à Valentine. « Fillette, tu me fais l'effet comme si tu jouais avec le feu de l'enfer. Le diable et ces gens-là, vois-tu, c'est la même chose. » « Maurice n'a pas peur d'eux, » murmura Valentine. « Lui, mon lieutenant, avoir peur ! » s'écria maman Léo. « S'il les tenait en Algérie, au champ d'honneur, il les avalerait comme de la soupe. Ce n'est pas pour vous faire reculer que je parle, non. C'est bien la vérité que Fleurette a dit tout à l'heure. Nous sommes tous ici comme au milieu d'un naufrage. Quoi donc, quand la perdition est là tout alentour et qu'on ne sait plus à quel saint se vouer, il faut bien donner quelque chose au hasard et même au diable. Seulement, j'ai mon idée. Pendant que le coyatier travaillera, je n'aurai pas mes mains dans mes poches. » « Prenez garde, bonne Léo, » fit mademoiselle de Villanove, « et la moindre marque de défiance anéantirait notre dernière chance de salut. » Elle s'était levée et son geste imposa silence à la dompteuse qui allait parler encore. « Sur cette dernière chance, dit-elle, j'ai mis tout mon avenir, tout mon bonheur, tout mon cœur. Mes jours et mes nuits n'ont qu'une seule pensée. Je travaille, je prie, et il me semble parfois que je réussirai, moi, pauvre fille, à tromper l'astuce de ces démons. Êtes-vous bien décidé, Maurice ? » ?»« Qu'ai-je à perdre ? » demanda le jeune prisonnier en souriant. « Alors tenez-vous prêt à toute heure, il ne s'agit ni de liens brisés, ni de barreaux attaqués avec la lime, et suivez seulement celui ou celle qui viendra et qui vous dira « Il fait jour ».»« L'heure m'en ordre !» balbutia la veuve en pâlissant. Je vois que nous n'y allons pas par quatre chemins, dit Maurice avec une sorte de gaieté désespérée. Quand on prononcera ce mot à votre oreille, reprit Valentine, je serai là, bien près, et s'il y a péril, je le partagerai. Si c'est comme ça que tu le consoles, ou commença maman Léo. Un mot encore, interrompit Valentine. Pour se marier, il faut avoir un nom, et je n'en ai pas. Celui que je porte n'est pas à moi, j'en suis sûr. Oh, sacré Dieu, s'écria la veuve. Voilà ce qui me donne la chair de poule. C'est l'idée qu'on va perdre de temps à faire ce mariage, au lieu de filer au grand galop sur n'importe quelle route. Ah, ces noces-là, moi, je les enverrai, je sais bien où. Et quant à l'histoire d'avoir ou de ne pas avoir un nom, dame, quand il s'agit de la vie. Les lèvres de Valentine touchaient en ce moment le front de Maurice. « Je suis mademoiselle Darx, murmura-t-elle d'une voix si basse qu'on eut peine à l'entendre. J'ai avengé mon père, j'ai avengé mon frère. Ils me croient folle. Ils ont raison peut-être, car j'ai pris, moi, pauvre fille, un fardeau qui écraserait les épaules d'un homme. Ce n'est pas à une fuite que je vais, c'est à une bataille. Mon mari doit le souffle de sa poitrine à mon frère Remy Darx. Mon mari doit être de moitié dans ma vengeance. » Et c'est pour cela que je risque sa vie avec la mienne. J'aurai mon nom pour avoir mon mari, et ne craignez pas un trop long retard. Dans une demi-heure, je saurai comment je m'appelle, et je pourrai prouver la légitimité de ma vengeance. » Elle s'était redressée, si belle et si fière, que maman Léo et Maurice la regardaient avec admiration. Il leur semblait à tous deux qu'ils ne l'avaient jamais vue. Mais tout à coup, sa physionomie changea, parce que le gardien reparaissait à la porte. Elle secoua rondement la main du prisonnier en disant tout haut « Bonsoir, cousin, à vous revoir. Je sais bien qui est-ce qui ne fera pas tort aux provisions de la maman ce matin. De vous trouver comme ça dans la peine, ça m'a ôté l'appétit pour toute la journée. Venez, la mère. » Et elle poussa dehors maman Léo, tout étourdie, mais sur le seuil, elle se retourna. Sa main toucha sa poitrine et ses lèvres, comme si elle eût envoyé à Maurice tout son cœur dans un dernier baiser. Le fiacre attendait devant la porte de la prison. D'un regard rapide, Valentine interrogea les deux côtés de la rue et ne vit rien de suspect. Elle monta la première. Maman Léo dit au cocher en haussant les épaules « Ah, voilà pourtant les gamins d'aujourd'hui !» Elle ajouta tout haut en montant à son tour « Que tu mériterais bien une taloche pour te comporter avec l'impolitesse de laisser une dame en arrière !» Et la taloche vaudrait de l'argent au marché des gifles, pensa le cocher, qui avait déjà mesuré plusieurs fois avec admiration l'envergure de maman Léo. « Vous avez raison, murmura Valentine, qui tendit la main à sa compagne. J'ai oublié un instant mon rôle, mais il est bien près de finir, et je ne le reprendrai plus. » Elle abaissa la glace qui fermait le devant de la voiture pour dire au cocher « Rue du Mail, numéro 3, et brûlez le pavé, vous aurez un bon pourboire. » « Alors, c'est toi qui commandes la manœuvre ?» fit la veuve. « Oui, » répondit mademoiselle de Villanove, et ce fut tout. Deux ou trois fois, pendant la route, maman Léo essaya de renouer l'entretien, mais Valentine resta silencieuse et absorbée. Quand la voiture s'arrêta à l'entrée de la rue du Mail, devant la maison numéro 3, Valentine sembla s'éveiller d'un sommeil. « Tu connais quelqu'un ici, fillette ?» demanda la dompteuse. Elle s'interrompit pour ajouter « Mais qu'as-tu donc? Te voilà plus pâle qu'une morte. » Valentine répondit, « Je ne suis jamais venue qu'une fois dans cette maison. J'y connaissais quelqu'un, quelqu'un de bien cher. » Elle se leva en même temps pour descendre. Maman Léo demanda encore, « Faut-il rester ou te suivre? As-tu besoin de moi? » « Je suis bien faible, » répliqua Valentine, « ne m'abandonnez pas. » La veuve sauta la première sur le trottoir et reçut dans ses bras la jeune fille qui pouvait à peine se soutenir. Elles entrèrent toutes deux sous la voûte où le concierge était en train de fendre du bois pour son poêle. « Demandez-lui, » prononça tout bas Valentine, « s'il y a quelqu'un chez Monsieur Remy Darx. » Ce mot valait toute une longue explication. « Ah, bon, bon, » fit la dompteuse, « je ne m'étonne plus alors si tu trembles la fièvre, mais tu peux te vanter de m'avoir fait peur. » Elle adressa au concierge la question que Valentine lui avait dictée. Le bonhomme, qui était courbé sur son ouvrage, se releva et les regarda avec mauvaise humeur. « Là où demeure maintenant Monsieur Darx, » répondit-il brutalement, « il n'y a où mettre personne avec lui. » Et son domestique, murmura Valentine, Germain. Ah, monsieur Germain, rectifia le portier, c'est différent. Son domestique vient de remonter. J'entends le domestique de monsieur Germain, et je pense bien qu'il doit être levé à cette heure. J'entends, monsieur Germain. Il lui vient assez de visite au brave monsieur depuis chez l'histoire, mais il n'en est pas plus fier que cela. Montez au premier, mais ne sonnez pas trop fort, parce qu'il n'aime pas le bruit. Valentine et maman Léo montèrent. À leur coup de sonnette discret, un valet de bonne apparence, sans livrée, mais portant le grand deuil, vint ouvrir. Elles n'eurent même pas besoin de parler. Aussitôt que le valet les eut aperçues, il s'écria, Ah! Entrez, entrez, ma bonne dame, et vous aussi, jeune homme, vous êtes en retard. Voilà plus d'une heure que monsieur vous attend. Nous sommes bien ici chez monsieur Germain, dit Valentine, qui crut à une méprise. Vous êtes chez monsieur Remidarx, repartit le valet, non sans emphase, mais c'est bien monsieur Germain qui vous attend. Valentine et maman Léo entrèrent. Certaines maisons de la rue du Mail sont construites selon un assez grand style, et il y a telles d'entre elles qui ne dépareraient point le faubourg Saint-Germain. Après avoir traversé une salle à manger et un salon haut d'étage, tous deux vastes et meublés avec un goût sévère, mais où il régnait je ne sais quel arrière-goût de tristesse et d'abandon, la dompteuse et sa jeune compagne furent introduites dans le cabinet de travail de Remidarx. Le valet avait dit en les précédant, Monsieur Germain, c'est la bonne dame et son petit. Le cabinet était une pièce de la même taille que le salon et dont les deux hautes fenêtres donnaient sur une cour plantée d'arbres. Le bureau, les sièges et la bibliothèque régnante étaient en bois d'ébène, dont le poli austère ressortait sur le sombre velours des tentures. Il y avait auprès du bureau, dans le fauteuil où sans doute Remidarx avait coutume de s'asseoir autrefois, un homme à cheveux blancs qui portait la grande livrée de deuil. Cet homme, dont la figure était triste et respectable, repoussa des papiers qu'il était en train de consulter et regarda les nouvelles venues. Nous nous exprimons ainsi parce que, paraîtrait-il, le sexe de Valentine n'était pas un mystère pour lui. En effet, il se leva et dit avec une sorte de pieuse émotion, Mademoiselle Darx, monsieur Remy, votre frère, mon maître bien-aimé, m'a laissé l'ordre de commander ici jusqu'à votre venue, afin de vous recevoir dans votre maison et de vous mettre en possession de ce qui vous appartient. Maman Léo ouvrait de grands yeux. Les événements pour elle prenaient une allure féerique. Son imagination était si violemment frappée que désormais aucune surprise ne pouvait lui arriver exempte d'inquiétude. Elle voyait partout la menace mystérieuse et il semblait que le souffle des habits noirs empoisonnât l'air même qu'elle respirait. Elle n'avait rien perdu de sa bravoure, en ce sens qu'elle était prête à affronter n'importe quel danger, mais sa bravoure ne paraissait plus au dehors. Elle se tenait en arrière de Valentine et regardait avec une sorte de terreur superstitieuse cette chambre où était mort un soldat de la loi et que la loi n'avait pas su défendre. Valentine, au contraire, était calme, en apparence du moins. Elle répondit au vieux Germain par un simple signe de tête, puis elle marcha droit à un portrait posé sur chevalet entre les deux fenêtres et que le jour frappait à revers. Elle retourna le chevalet en silence pour mettre le portrait en lumière. La mélancolique et belle figure de Remy sembla sortir de la toile. Valentine le contempla longuement, pendant que maman Léo et Germain se taisaient tous les deux. On put voir ses mains tremblantes se chercher et se joindre, sa paupière battie comme pour refouler des larmes. Elle ne pleura point. « Pourquoi m'avez-vous appelée mademoiselle Darx ?» demanda-t-elle en revenant vers le bureau. Parmi la douleur profonde qui couvrait les traits de Germain, il y eut comme un sourire. « Parce que je vous attendais, répondit-il. Il y a bien longtemps que je vous attends, et ce matin encore, votre visite m'a été annoncée. » Je vous ai reconnu tout de suite. Il m'a semblé voir monsieur Remy à l'âge de 15 ans. Il était le vivant portrait de sa mère, de votre mère aussi, mademoiselle, et je suis sûr qu'avec les habits de votre sexe, vous ressembleriez trait pour trait à feu notre bonne dame. Il avança le propre fauteuil de Remy et son geste respectueux invita Valentine à s'asseoir. Valentine prit le siège et dit, Faites comme moi, bonne Léo, nous resterons longtemps ici. Germain, qui tout à l'heure encore était le maître de cette maison, où il remplaçait avec une véritable dignité le jeune magistrat décédé, avait repris sans affectation ni regret l'attitude qui convient à un domestique, et il se fût offensé peut-être si Valentine l'eût traité autrement qu'en serviteur. « Il y a eu, le mois passé, 43 ans, fit-il, que j'entrais dans la maison de monsieur Mathieu Darx. C'était alors un tout jeune homme. Il achevait ses études et me demandait parfois conseil. Quand il se maria, il me garda, et la jeune dame, qui était belle comme les anges, m'aima comme son mari m'aimait. Je les servais de mon mieux. Il n'y a rien au monde que je n'eusse fait pour eux. Il y eut une grande joie quand l'enfant vint, monsieur Remy. Après le père et la mère, ce fut moi qui l'embrassai le premier. Ils sont morts maintenant, tous, le père, la mère et l'enfant. Vous êtes la seule en vie, mademoiselle Darx, vous êtes la seule aussi qui ne me deviez rien, mais j'espère que vous me garderez pour l'amour de ceux qui ne sont plus. » Valentine lui tendit sa main, qu'il baisa. « Merci, fit-il. Je n'aurais pas été content de rester ici seulement parce que monsieur Remy vous le demande dans son testament. »
Mon frère a fait un testament, murmura Valentine.
Il n'a pas pu en écrire bien long, répliqua Germain, et sa pauvre main, qui courait si vite autrefois sur le papier, a eu de la peine à tracer quelques lignes. Je vous les donnerai, ces lignes, elles sont à vous, comme tout le reste. Mais il y a un autre testament qui n'est pas écrit, ce sont toutes les paroles tombées sur ses lèvres, et qui, toutes, depuis la première jusqu'à la dernière, étaient prononcées pour vous.
« Sacré Dieu !» fit la dompteuse, qui atteignit son vaste mouchoir. « Tu te retiens pour ne pas pleurer, fillette, mais moi, j'ai beau faire, ne te fâche pas, ça va partir. »
Germain la regarda, étonné de cette familiarité.
« J'ai vu monsieur Bouffet une fois au gymnase, reprit la dompteuse, qui avait des larmes plein les yeux dans un rôle de valet fidèle, même qu'on lui donna le prix Montillon au troisième acte. Mais il n'était pas de moitié si bien que vous. Devidez votre rouleau, vénérable Germain, je ne suis pas du grand monde, moi, et la fillette me prend pour ce que je vaux. »
D'une main elle s'essuya les yeux, et de l'autre elle secoua celle du vieil homme en ajoutant
« Voilà qui est fini, vous pouvez marcher. »
Monsieur Remy, prononça Germain à voix basse, n'a pas eu la force de m'en dire bien long, mais il m'a parlé d'une bonne dame, montreuse d'animaux, je crois, à qui mademoiselle Darx doit beaucoup de reconnaissance.
C'est moi, la montreuse, brave homme, mais la fillette ne me doit rien de rien. Roulez votre bosse, voulez-vous, car nous ne sommes pas ici pour flâner.
Il y a, continua Germain, bien des choses que je ne comprends pas. Monsieur Remy m'avait défendu de faire aucune démarche pour vous joindre avant un mois écoulé, mais il avait ajouté « Elle viendra d'elle-même, je suis sûr qu'elle viendra. » J'attendais. Ce matin, on m'a annoncé un commissionnaire qui demandait mademoiselle Darx. Je l'ai fait introduire auprès de moi, il m'a dit que vous deviez venir et m'a dépeint le costume sous lequel vous vous présenteriez. Il ne m'a pas dit pourquoi vous portiez ce costume. »
Maman Léo et Valentine échangèrent un regard.
« Il avait, continua le vieux valet, un besoin pressant de vous parler. Il est sorti en disant « Priez mademoiselle Darx de m'attendre, car je reviendrai. »
Valentine demanda « Comment était fait ce commissionnaire ?»
En quelques paroles, Germain dessina un portrait si frappant de ressemblance qu'on ne le laissa pas achever. La dompteuse et Valentine prononcèrent en même temps le nom de Coyatier.
« Méfiance, murmura maman Léo, dont les sourcils étaient froncés.
« Je n'en suis plus à la méfiance, répliqua Valentine avec son triste sourire. « Mais, vaillant, si vous aviez eu peur, maman, quand vous entriez dans la cage de vos bêtes féroces, vous auriez été perdu.
« C'est vrai, murmura la veuve, mais c'est chanceux.
« Ce que je désire savoir, reprit la jeune fille, c'est ce qui regarde mon frère. « Parlez, Germain, et soyez bref, car j'ai peu de temps pour vous entendre. »
Germain demanda « Mademoiselle Darx désire-t-elle que je lui raconte le passé? Elle a le droit de tout savoir. »
Et parmi les dernières paroles de mon cher jeune maître, il y avait celle-ci « Que ma sœur n'ignore rien. »
« Je sais tout, » interrompit Valentine.
« Alors que Dieu vous donne le courage ou l'oubli, c'est une sanglante histoire et il y a bien des douleurs dans l'héritage que vous allez recueillir.
Jusqu'à ces derniers temps, monsieur Remy vous cherchait encore, malgré le grand travail qui prenait toutes ses heures. J'entends, il cherchait toujours sa sœur, la pauvre enfant disparue lors de la terrible catastrophe de Toulouse. Quand il ne chercha plus, c'est que le hasard vous avait envoyé sur son chemin, trompant sa tendresse et le condamnant à ce supplice atroce dont il est mort, car ce n'est pas le poison qui l'a tué. C'est moi qui l'ai tué, murmura Valentine, je sais aussi cela. Elle était plus pâle qu'une agonisante, mais elle se tenait ferme et droite sur son siège. Maman Léo suait à grosses gouttes. Germain courba la tête et dit tout bas, il y a des familles qui sont condamnées. Monsieur Remy se cachait de moi, poursuivit-il, comme s'il eût craint un conseil. Je ne connaissais la fiancée de mon maître que pour l'avoir entrevue à travers un voile, le soir où il revint du palais, évanoui. Et ce n'est pas à cause de cette rencontre que je vous ai reconnu tout à l'heure. J'ignorais aussi la guerre implacable où mon maître était engagé. Je savais seulement, ou plutôt, je voyais qu'il devenait sombre, inquiet, malade d'esprit et de corps. Il y avait un signe funeste sur son front, et je devinais peut-être la nature du péril qui le menaçait, car la fièvre de ses nuits parlait dans son sommeil. Mais que faire? Il était magistrat comme son père, et son père était tombé en faisant son devoir. Le jour même de la signature du contrat, vers 4 heures du soir, on le rapporta ici. Il n'était pas mort, mais il ne bougeait ni ne parlait, et ses yeux semblaient ne plus me voir. Il resta ainsi toute la soirée. J'avais fait appeler plusieurs médecins qui vinrent et se consultèrent longuement. Quand ils se retirèrent, l'un d'eux me dit « Si les opinions que M. Dax professait ne s'y opposent pas, il faudrait lui avoir un prêtre. » Jusqu'à ce moment-là, j'avais espéré en sa jeunesse et en la force de sa constitution. Un autre docteur me demanda « N'y a-t-il donc point de famille? Il faudrait prévenir ses parents ou du moins ses amis. » J'envoyai chercher le curé de Notre-Dame-des-Victoires, l'abbé des Genettes, ce vieux soldat qui porte la soutane comme une capote de grenadier. Il nous connaissait bien, il arrivait quelquefois dès le matin chez M. Remy, qu'on éveillait pour le recevoir, et il disait « J'ai besoin de temps pour mes pauvres ». On lui payait son dû. Il vint, il interrogea mon pauvre malade qui resta muet comme une pierre. Monsieur le curé s'agenouilla auprès du lit et pria, mais cela ne dura pas longtemps parce que d'autres malheureux l'attendaient. « Garçon, me dit-il en s'en allant, si Monsieur Dax retrouve sa connaissance, en quelque heure du jour ou de la nuit que ce soit, je serai prêt. Mais s'il ne recouvre pas sa connaissance, il ne faut point craindre, car jamais il n'a rien refusé à ceux qui souffrent. Les âmes comme la sienne n'ont pas besoin de passeport pour s'en aller tout droit à Dieu. » De la famille, M. Remy n'en avait plus. Des amis, il n'en voulait point, parce que les amis prennent du temps et qu'il avait sa tâche. Je songeais pourtant tout à coup à un homme de grand âge qu'il estimait fort au-dessus des autres hommes et qui lui donnait des conseils pour son grand travail. J'envoyais rue Thérèse chez le colonel Bozzo Corona. À ce nom, Valentine et aussi la dompteuse firent un si brusque mouvement que le vieux valet s'arrêta. Vous le connaissez? Demanda-t-il. Moi, je ne savais qu'une chose, c'est qu'il avait une figure bien vénérable et que M. Remy n'accueillait personne si affectueusement que lui. Il vint tout de suite et ne vint pas seul. Il y avait avec lui le docteur Samuel et un monsieur de Saint-Louis que j'avais vu l'un et l'autre quelquefois. Il y avait aussi une femme admirablement belle qui, dès son entrée, courut vers le lit et prit les deux mains de M. Remy en pleurant. Le colonel et ses compagnons avaient l'air aussi émus. Ce fut d'eux que j'appris dans ces détails la scène de la rue d'Anjou-Saint-Honoré. Le docteur Samuel examina M. Remy pendant que la jeune femme, qui était la comtesse Corona, demandait d'une voix tremblante « N'y a-t-il donc aucun moyen de le sauver ?» Le docteur Samuel répondit « La vie ne tient plus en lui que par un fil. » Et quelques minutes après, il ajouta « Le voilà qui meurt. Il est mort. » « Est-ce vrai ?» interrompit Valentine, qui écoutait, la face livide, mais les yeux secs. « Non, répliqua Germain, ce n'était pas encore vrai, mais je le crus, car les yeux de mon maître étaient sans regard, et ma main, que j'approchais de ses lèvres, ne sentit que du froid. » Le colonel s'approcha de moi et me dit, « Germain, vous savez qu'il y avait entre mon malheureux ami et moi autre chose que de l'affection. Nous poursuivions en commun l'accomplissement d'une tâche qui a occupé son existence tout entière. C'était vrai, je le savais, ou du moins M. Remy m'avait donné à entendre que le colonel Bozzo avait sa plus intime confiance, et qu'en cas de malheur, car M. Dark savait la pensée d'un malheur, c'était au colonel Bozzo que je devais m'adresser en première ligne. Je savais aussi que le secrétaire de mon maître était plein de papiers ayant rapport à cette œuvre mystérieuse que je croyais commune entre lui et le colonel. La responsabilité qui pesait sur moi en ce moment terrible m'écrasait. Peut-être ne savais-je pas bien ce que je faisais, car le chagrin me rendait fou. Toujours est-il que j'allais vers l'endroit où M. Dark mettait la clé de son secrétaire, et je revenais déjà vers le colonel pour la lui donner, lorsque la comtesse Corona, qui s'était penchée sur mon cher maître, s'écria par trois fois « Non, 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 Remy Dark n'est pas mort !» Le colonel Bozzo, à ce moment même, tendait la main pour prendre la clé du secrétaire. Je ne sais quel instinct me retint de la lui donner, et je masquai mon refus en m'élançant tout joyeux vers le lit. Le lit fut aussitôt entouré par le colonel et ses amis, qui semblaient en vérité aussi contents que moi. Les yeux de Remy Dark avaient repris en effet un vague rayon, et ma joue, que j'approchais tout contre ses lèvres, sentit un souffle, mais si faible. « Voyons, docteur, dit le colonel, c'est peut-être le commencement d'une crise favorable, aidez le miracle à s'accomplir. »« Nous vous en serons reconnaissants, ajouta M. de Saint-Louis, comme s'il s'agissait pour nous d'un cher enfant. » Et moi, je dis aussi quelque chose, et j'implorai le médecin à main jointe. Il répéta, en prenant le poignet du malade pour lui tâter le pouls avec soin, « Ce serait en effet un miracle. » Puis il alla vers la table autour de laquelle les autres médecins s'étaient consultés, et il écrivit une ordonnance. On ne parla plus de la clé du secrétaire. Le colonel dit seulement, en me prenant à part, « Si nous avons le bonheur de le sauver, mes intérêts sont aussi bien entre ses mains que dans les miennes propres. Si, au contraire, mais je reviendrai demain matin à la première heure. » Ils s'en allèrent ensemble comme ils étaient venus. La comtesse Corona voulut rester, mais le colonel ne le permit point. La potion, ordonnée par le docteur Samuel, fut apportée. Je ne sais quelle vague défiance était en moi contre ce médecin qui avait dit, en parlant de mon maître vivant, « Il est mort ». Au moment où je voulus donner la potion, en me disant en moi-même que c'était peut-être le salut, le bras de Remy Dark eut un mouvement faible que je pris pour un refus. Et je ne me trompais pas, comme vous allez le voir. Je n'insistais point, je roulais un fauteuil au chevet du malade et je m'installais pour passer la nuit auprès de lui. Certes, je ne dormais pas, j'entendais les bruits du dehors qui allaient s'affaiblissant et la pendule sonnant les heures, mais une sorte de vague enveloppait ma pensée et je voyais comme au travers d'un voile les visages de ces trois hommes qui maintenant me semblaient ennemis. Les 12 coups de minuit venaient de sonner, lorsque je bondis sur mes pieds comme si une main m'eût soulevé. La voix de M. Remy, bien faible, mais très distincte, parlait à côté de moi. « Donne-moi à boire, disait-elle, pas de la potion, de l'eau pure. »« Remy, mon cher maître, m'écriai-je, croyant rêver, car je l'appelais souvent par son nom de baptême, pour l'avoir eu autrefois tout enfant sur mes genoux. » Ai-je donc eu le cœur de dormir, et vous m'avez appelé déjà, et en même temps je m'approchais avec un verre d'eau. « Tu n'as pas dormi, me répondit-il, ma langue vient de recouvrer sa liberté, comme si on eût brisé le lien qui l'attachait. Va chercher un verre dans le buffet et de l'eau à la fontaine. Ces hommes ont été autour de la table. » « Et vous croiriez, commençai-je ? » Il m'interrompit en disant, « Va, j'ai grand soif. » Je revins tout courant après avoir pris de l'eau fraîche à la fontaine, et il but avec avidité. « Ce sont ces hommes qui m'ont tué, » me dit-il de sa pauvre belle voix tranquille et grave, en me rendant le verre. Et comme je balbutiais dans ma stupéfaction les mots « justice, tribunaux », il sourit d'un air découragé. « 10 ans d'existence ne suffiraient pas pour faire luire la vérité, » murmura-t-il, « et c'est à peine si j'ai quelques heures. À quoi bon essayer l'impossible? Il faut employer autrement le temps qu'il me reste. » « Vous les avez donc vus, m'écriai-je, vous les avez entendus ?»« J'ai tout entendu et tout vu, répondit-il. Ma jeunesse et ma force n'ont rien pu contre eux. Que pourrait désormais mon agonie? Allume du feu. » Je crus avoir mal entendu, car les idées se brouillaient dans ma cervelle en fièvre. Monsieur Remy répéta d'un accent impérieux, « Allume du feu !» J'obéis, et la flamme brilla bientôt dans le foyer. « Tu as bien fait de ne pas donner la clé, Germain, » reprit mon maître, dont la voix semblait déjà plus faible. « Ouvre le secrétaire. » J'ouvris le secrétaire. « Prends tous les papiers qui sont sur la tablette du milieu, tous, depuis le premier jusqu'au dernier, et brûle-les devant moi. » Je n'avais jamais lu ces papiers, mais je les connaissais bien. C'étaient tous les brouillons d'un grand travail dont il s'occupait depuis des années, des pièces à l'appui, des documents, le produit d'immenses efforts, de recherches, de fatigue. « Ma sœur viendra, » pensa tout haut mon maître, et c'était la première fois que je l'entendais parler de sa sœur. Elle trouverait tout cela, elle voudrait continuer l'œuvre fatale que je n'ai pu achever, et comme je vais mourir, elle mourrait. « Les papiers ne furent pas brûlés, je suppose, » demanda Valentine, dont les yeux brillèrent. « C'était sa volonté, » répondit le vieux valet. « Les papiers furent brûlés, comme il l'avait dit, tous, depuis le premier jusqu'au dernier. Ah, »« Alors, » dit la jeune fille en baissant la tête, « il ne me reste rien, je n'ai plus d'armes pour combattre. » « Il souhaitait justement cela, » répondit encore Germain. « Il voulait rendre le combat impossible. Il vous aimait bien, mademoiselle. Dans ses derniers moments, il n'y avait pas en lui d'autre pensée que celle de sa sœur. Mais à quoi bon parler? Vous allez voir tout à l'heure comment il vous aimait. »